Et bonjour, Annick Delefosse au micro de Radio FM+. Comme chaque année, eh bien, nous nous retrouvons au Printemps des comédiens. Nous sommes installés sous la Pinède. Alors vous pouvez venir nous voir. Nous y sommes tous les jeudis de 18h à 19h. Sinon, votre émission Scénorama eh bien, est diffusée comme d'habitude sur le 91 FM tous les vendredis à 10h10, le samedi à 12h10 ainsi qu'à 18h10 et écoutable en podcast sur radiofmplus.org. Le Printemps des comédiens, c'est au Domaine d'Eau de Montpellier jusqu'au 30 juin. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Auton, metteur en scène de la compagnie Machine Théâtre pour sa création « Crime et châtiment », Ludivine Bluche, son assistante et comédienne, l'accompagne. Eh bien, c'est un spectacle à voir absolument, mais vous allez comprendre pourquoi, ce vendredi et samedi à 22h à l'Amphido. Ensuite, Katia Ferreira, de la compagnie Le Cinquième Quart, nous dira tout sur sa création très attendue, First Trip, à voir ce vendredi à 20h et samedi à 18h au Théâtre Jean-Claude Carrière. Nous terminons avec Martin Gerbier et Martine Leroy du Centre des Arts du Cirque Balthazar pour Corps en Jeu, la création annuelle des stagiaires en formation professionnelle. Là aussi, c'est ce vendredi et samedi à 20h30 sous chapiteau. Alors sachez qu'on peut toujours trouver des places au Printemps des comédiens, même si vous voyez annoncé complet, vous arrivez une heure, une petite heure à l'avance, et en général, vous avez des places, que ce soit via la billetterie, soit par des personnes qui les revendent pour X raisons. Je sais que voilà, Crime et châtiment, c'est déjà annoncé complet, mais venez, 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 je suis sûr que vous rentrerez. Alors à présent, place au théâtre. Nicolas Auton, merci d'être avec nous.
Bonsoir, bonjour.
Bonjour, Ludivine, merci. Bonjour. Alors, depuis votre sortie de l'ENSAD, vous n'avez cessé de nous épater par la qualité de vos spectacles. Depuis 15 ans, Machine Théâtre nous embarque dans des textes allant du XVIe siècle, de Shakespeare à l'an 2000, de Marion Aubert ou Fabrice Melchiot, en passant par Gorky ou Gabili. C'est écrit dans le dossier de presse.
Tout à fait.
Tout à fait. Soit plus de 18 spectacles de 1 à 15 comédiens.
Oui.
Et voilà, vous voici avec une adaptation du fameux roman de Dostoïevski, Crime et châtiment, un spectacle qui tourne depuis octobre de l'année dernière et dont les critiques sont dithyrambiques. Hein. C'est franchement beau de lire tout ça.
Bah écoutez, on a eu une bonne attachée de presse qui nous a fait venir des journalistes et donc ces journalistes ont écrit des beaux papiers. On est très contents.
Parce ah que oui.
Voilà, c'est un peu rare qu'on ait de la presse nationale sur un spectacle. Donc ça nous a fait du bien.
Ah oui, et c'est pas n'importe quel journaliste. C'est comme vous dites, voilà, c'est vraiment des journalistes au niveau national. Donc franchement, et je pense que là, c'est porteur évidemment.
C'est porteur, et puis ça fait toujours plaisir d'avoir un retour positif sur un spectacle parce qu'on donne énormément, on se prépare pendant longtemps. De monter une production, ça prend du temps. Et c'est mieux pour toute l'équipe qui ait plutôt des bonnes critiques. Après, on peut ne pas les lire. Hein, mais
bah, quand elles sont bonnes, c'est celles qui ne sont pas bonnes qu'on évite,
voilà.
qu'on oublie vite. Mais là, il n'y a même pas de mauvaises.
Bon, tant mieux pour nous.
Oui. Alors, nous avons pu vous voir en tant que comédien dans un monologue superbe, Les carnets du sous-sol, de ce même auteur. Nicolas, qu'est-ce qui vous fascine donc chez Dostoïevski pardon, et qui vous a poussé à mettre son œuvre en scène?
Il y a beaucoup de choses, mais peut-être aussi c'est que j'ai découvert tardivement Dostoïevski il y a 5 ans et donc je me suis plongé dans cet auteur, dans ce roman qu'est Crime et châtiment, mais aussi dans L'idiot, dans Les possédés, dans L'adolescent, Karamazov et Les carnets du sous-sol. Et c'est vrai que j'ai été mais ça va être un lieu commun de dire ça parce que Dostoïevski est extrêmement connu, mais j'ai été soufflé par sa pertinence psychologique, par sa pertinence de la vision de l'humain et puis son récit qui tient en haleine et qui décrit l'âme humaine de façon assez époustouflante. C'est à la fois extrêmement noir mais extrêmement vivant, et il y a une écriture toujours toujours extrêmement vivifiante. Et donc on est tombé dans Dostoïevski, et puis on s'est arrêté sur Crime et Châtiment avec la compagnie, parce que c'est vrai que c'est tout ça aussi, c'est l'histoire d'une compagnie, comme vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que ça fait 15 ans, ça fait même plus que 15 ans, parce qu'avec Ludivine on se connaît depuis 20 ans maintenant. Donc ça je pense que c'est aussi une aventure, c'est-à-dire que on a 20 ans d'existence avec 7 à 15 comédiens, mais donc on se connaît vraiment depuis 20 ans, et on est resté ensemble pendant ces 20 ans, et pendant ces 20 ans, on a eu des hauts, des bas, des difficultés, enfin comme toutes les familles, mais ça aussi, c'est extrêmement réjouissant pour nous de pouvoir montrer une pièce comme ça dans l'amphithéâtre, dans un festival prestigieux, et nous qui sommes issus de Montpellier, et en plus avec la même bande qu'il y a 20 ans.
Oui, une vraie troupe. Alors, en revenant à cet auteur, il n'a pas eu la vie facile. C'est peut-être aussi ce qui explique ses œuvres aussi noires et philosophiques, on peut dire.
Écoutez, demain, je ne sais plus quel jour on est, mais il y a Markovitch qui va venir à la Gazette, qui connaît.
Ce vendredi, donc.
Ce samedi. Markovitch, nous, on travaille sur une de ses traductions, mais c'est vrai qu'on a traversé Markovitch pendant sur plein de pièces, et là, il a tout traduit, et il sera plus à même de décrire sa vie, mais c'est vrai que la vie de Dostoïevski est un roman.
Oui.
C'est un personnage qui a traversé 80 années de façon complètement folle, avec des bas, avec 4 ans de bagne, 4 ans de relégation en Sibérie, avec des enfants qui meurent, avec des femmes, lui-même épileptique, avec un père qui le frappait. Enfin, il a tout un monde. Il a tout un monde incroyable. Enfin, je veux dire, sa vie est incroyable.
Oui. Sa vie est un roman. Alors, il a écrit Crime et Châtiment en 1866, et ça a d'abord été publié en feuilleton.
Je vais laisser parler un peu Ludivine, oui. Parce que j'ai pas envie de prendre toute la place. Mais effectivement, je lui laisse la place.
Qu'est-ce que tu veux que je dise ?
Non, mais c'est qu'il a écrit, tout le temps, il écrivait tout le temps en épisode. Il faisait des plans complètement dingues de ce qu'il allait écrire, mais après, tous ses écrits étaient dans des revues, et comme des nouvelles qui se... Tous les mois, il y avait un nouvel épisode qui passait, et il fallait tenir en haleine le lecteur. Et du coup, c'est vrai que Crime et Châtiment et ses autres romans sont écrits de façon d'épisode, c'est-à-dire que ça se termine à chaque fois, le chapitre se termine sur un coup de théâtre où quelqu'un qu'on attendait qui va rentrer, il a comme ça ce don de mettre du suspense dans la fin de ses récits pour que le lecteur soit accroché. Parce que avant tout, Dostoïevski, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a à la fois la puissance de frappe de décrire l'âme humaine, mais il était également soucieux que le lecteur le lise pour des questions aussi pécuniaires, parce qu'il était tout le temps en galère d'argent. Il n'a jamais, à la fin de sa vie, il a eu un temps un peu de répit, mais sinon tout le temps il était dans la dèche, en galère, à essayer de se faire un peu de pognon, parce qu'en plus il dilapidait son fric à chaque fois qu'il en avait. Après il a joué à la roulette, il dilapidait tout. Enfin bon, voilà, maintenant je me tais, je laisse un peu parler Ludie.
Alors Ludivine, ces thèmes donc de la nature humaine et de la condition humaine sur lesquels qui dominent chez l'auteur, ils sont toujours d'actualité. C'est, j'imagine, aussi ce qui vous a qui vous a incité à mettre en scène Crime et Châtiment.
Oui, certainement. Je pense qu'ils seront toujours d'actualité. Enfin, en effet, je sais pas ce que.
Malheureusement.
Oui, peut-être. L'ivrognerie, la misère, l'égotisme, la vanité de l'existence.
Oui. Et alors, que raconte Crime et Châtiment ?
Crime et Châtiment, c'est l'histoire d'un jeune homme, Raskolnikov, qui, dans le roman, a 23 ans. Il est étudiant, mais il a arrêté ses études. Il est dans la misère. Il est dépendant, tributaire de sa famille, de sa mère, qui lui envoie rarement, mais un peu d'argent, sur la pension qu'elle reçoit, sa pension de veuve qu'elle reçoit. et qui va commettre un crime. Le roman s'ouvre sur il a déjà prévu son crime, et le roman s'ouvre sur un essai. Il va aller voir cette usurière, une usurière qui se fait de l'argent sur le dos des pauvres gens pour essayer de la tuer.
Oui. Alors, quels ont été vos choix de mise en scène, puisque vous avez travaillé tous les deux dessus?
Le choix de mise en scène de Nicolas, surtout au départ, c'est l'option, c'est de se centrer sur ce personnage, sur Raskolnikov. Au départ, c'était vraiment même comme si on était dans sa tête. C'est vraiment l'idée, c'est de recentrer cette fresque, parce que c'est quand même une fresque sociale avec beaucoup de personnages très forts. C'est une grande fresque, c'est un roman en deux volumes, je ne sais pas combien de pages. Mais... Et l'idée pour en faire un spectacle, voilà, de 2 heures, on en est à 2h20, je crois, 2h15, 2h20, c'est de recentrer l'intrigue et sur la figure de Raskolnikov, sur ce cas de conscience. Parce que c'est vraiment la question de l'histoire d'un cas de conscience.
Oui. Et alors, est-ce que vous voulez bien nous présenter les personnages et les comédiens qui les interprètent? Ils sont quand même une douzaine sur scène.
Tu veux qu'on te dise toute la liste des personnages?
Oui, sans rentrer trop dans le détail, on n'aura pas le temps. Mais,
oui, parce qu'ils sont nombreux. C'est Frédéric Bory qui joue Raskolnikov, on peut dire déjà.
C'est pas grave.
Et donc il y a Frédéric Bory qui joue Raskolnikov. Il y a Brice Carayol qui joue Razoumikine, c'est l'ami de Raskolnikov. Il y a Franck Ferrara qui joue Loujine, qui va être l'amant de la sœur, enfin le futur mari normalement de la sœur de Raskolnikov.
La sœur de
Raskolnikov, c'est Christelle. La mère de Raskolnikov, c'est Charlotte Clamins. L'ivrogne Marmeladov, donc le père de Sonia, mais pour ceux qui ne connaissent pas le roman, ça va être compliqué, mais c'est Patrick Molo. La jeune prostituée qui s'appelle Sonia et qui va servir de déclencheur à une rédemption possible de Raskolnikov, c'est Alizé Soudé.
Et Porphyre, le juge Porphyre, c'est Alex Selman.
Alors, puisque vous parlez de Porphyre, on a oublié...
On
oublie Manuel Lelièvre, qui a fait la création du rôle de Svidrigaïlov et que Nicolas va reprendre pour les dates du Printemps des comédiens.
D'accord. Alors, puisque voilà, vous parlez de Porphyre, on va écouter un extrait. Vous pouvez nous le situer par rapport à l'ensemble de la pièce?
Porphyre, il arrive à peu près au premier tiers de la pièce. C'est l'inspecteur qui va lui aussi servir de déclencheur. En tout cas, c'est un juge d'instruction. Et c'est ça va être grossier ce que je veux dire, mais c'est l'ancêtre de Colombo. C'est-à-dire que c'est vraiment un personnage d'une humanité incroyable et en même temps torturé. Et qui va faire accoucher Raskolnikov de son crime et qui va le titiller, qui va le poursuivre dans ses derniers retranchements pour le faire avouer.
On écoute.
Vous savez, je vous reçois ici, mais mon appartement, n'est-ce pas? Il est là, juste derrière la cloison, un appartement de fonction, vous savez. C'est un bon truc, hein? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est un bon truc.
Un bon truc, hein? Un bon truc, ouais, un bon truc.
Vous savez quoi, il y a une loi juridique comme ça, il paraît, un genre de procédé juridique, de commencer de très loin par quelque chose qui n'a rien à voir, pour distraire celui qu'on interroge, endormir sa méfiance, et puis brusquement, de la façon la plus inattendue, la bassourdir, comme d'un grand coup sur le crâne, par la question la plus fatale et la plus dangereuse. C'est ça, non? La règle sacrée de toutes les instructions?
Ah oui, oui. Alors vous pensez qu'avec l'appartement de fonction, moi je vous lève, hein? Porphyre Petrovitch, hier, vous avez exprimé le désir que je me présente pour je ne sais quel interrogatoire. Je suis venu. Si vous avez besoin de quelque chose, posez-moi des questions. Sinon, permettez-moi de me retirer.
Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai à vous demander? Mais ne vous inquiétez pas, je vous en prie. Le café, je ne vous en propose pas, ce n'est pas le lieu.
Ne vous fâchez pas, mon bon monsieur, si je suis toujours en train de marcher comme ça, toujours. J'ai vraiment peur de vous offenser, mais l'exercice avait absolument indispensable. Je reste tout le temps assis et je suis si content de marcher comme ça. 5 petites minutes. Les hémorroïdes, n'est-ce pas? Le travail de l'enquêteur, c'est pour ainsi dire un art libre dans son genre.
Alex Selman, Frédéric Bory, vous avez quand même des sacrés comédiens, des sacrées tronches, des sacrées personnalités, on va dire.
Hein ? Ben oui, oui, oui. C'est bien. Ben non, mais Alex Selman, il a le côté complètement roublard et puis félin de Porphyre, quoi. Et puis Frédéric Bory, c'est un très grand acteur.
Oui. Oui, oui. Donc, Crime et châtiment de Dostoïevski à découvrir ce vendredi et samedi à 22h à l'Amphido. Nous y serons. Et venez, venez. Quelques mots sur la scénographie.
La scénographie, mais c'est toujours une histoire un peu de famille, parce que c'est Gérard Espinoza qui nous suit aussi. On l'a rencontré il y a aussi 20 ans. Et il nous avait fait le décor d'Henri VI, de Platonov. Voilà. Mais c'était des gros décors. Et là, il nous a proposé une scénographie très simple, mais en même temps assez pertinente.
Alors, j'aime beaucoup aussi le visuel, cette tête... blanche de cheval mort, j'imagine. Je ne sais pas si je me trompe.
Non, c'est ça. Une tête à terre dans l'herbe,
ouais,
verte.
Très beau, une tête blanche.
C'est une référence à l'histoire de Nietzsche qui est citée dans le roman. Enfin, on ne sait plus si c'est Dostoïevski qui a inspiré Nietzsche ou l'inverse. Mais c'est Marmeladov, une figure d'alcoolique, d'ivrogne invétéré. Qui va, dans notre version, qui va se transformer en comment ce cheval qui a inspiré la pitié de Nietzsche, le dernier moment avant la folie de Nietzsche, et ici la pitié de Raskolnikov.
D'accord. Alors pour les auditeurs qui ne pourraient pas venir vous voir ce vendredi et ce samedi, eh bien sachez que Machine Théâtre sera le 29 et 30 avril prochain au Théâtre de Nîmes. Et puis je vous souhaite une très très belle route.
Merci Annick.
Merci.
Merci à vous. On écoute un extrait de First Trip qui va faire la liaison. Je vois que Katia Ferreira est arrivée et elle nous dira tout donc sur sa création. Merci Nicolas, merci Divine.
Cécilia a été la première. Elle avait 13 ans seulement. C'était en juin 1974. Époque de la mouche des poissons, où chaque année, notre ville se trouvait submergée par les vagues de ces insectes éphémères. Il s'est levé en nuée des algues du lac pollué, noircissait les fenêtres, enduisait les voitures et les réverbères, plâtrait les quais et festonnait les gréments des bateaux. Cécilia s'était ouvert les poignets dans son bain, et quand les infirmiers l'ont trouvée flottant dans sa mare rose, les yeux jaunes comme une possédée, et son petit corps exhalant l'odeur d'une femme mûre, ils ont été tellement effrayés par sa tranquillité qu'ils sont restés hypnotisés. Mrs. Lisbonne est montée dans le véhicule du SAMU. Mr. Lisbonne a suivi dans le break en respectant les limites de vitesse. Deux des cinq filles Lisbonne étaient absentes. Thérèse était à Pittsburgh à un colloque scientifique. Et Bonnie, dans un camp de musique, essayant d'apprendre la flûte après avoir abandonné le piano, le violon, la guitare et la trompette. Marie et Lux, en entendant la sirène, avait accouru de l'autre côté de la rue, où elle prenait une leçon de chant avec Mr. Chessup. Les infirmiers ont emmené Cécilia à l'hôpital du Bon Secours sur Kercheval et Moumi. Dans la salle des urgences, Cécilia a observé les efforts faits pour tenter de sauver sa vie avec un détachement qui faisait froid dans le dos. Ses yeux jaunes n'ont pas scié. Elle n'a pas non plus sursauté quand on lui a planté une aiguille dans le bras et qu'on a suturé ses poignets.
Un extrait de First Trip. Katia Ferreira, merci de nous avoir rejoints au Domaine d'Eau.
Merci à vous.
Je sais que vous êtes en plein travail. Le public montpelliérain vous connaît et attend avec impatience de découvrir cette création, First Trip. En disant ça va, je ne vous mets pas trop la pression.
On se la met déjà, ça va.
Alors, Katia, vous aussi, on vient de recevoir Nicolas Auton et Ludivine Bluch. Vous êtes passé par l'ENSAD, l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier, dirigée à l'époque par Ariel Garcia Valdés et Richard Mitou. J'ai eu un doute sur votre promo 2014,
oui.
D'accord. À la sortie, vous créez le collectif d'acteurs La Carte Blanche.
Hein. Oui, tout à fait.
On se souvient de votre première mise en scène, Foi, Amour, Espérance. Vous participez avec Cyril Test et le collectif MXM à l'incroyable aventure de Nobody, vu la première fois au Printemps des Comédiens. C'était en 2013, ouais, donc vous étiez encore à l'école, ouais, c'est
ça. Oui, en deuxième année, oui.
Et oui. Puis donc, Nobody revient sous une autre forme, toujours au printemps, en 2015. Là, je sais que vous êtes sur Opening Night, la nouvelle créa de Cyril, donc à la dramaturgie et à la création des costumes, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et donc, on retrouve pour votre création une bonne partie du collectif, ainsi que donc d'autres comédiens.
Hein ? Oui, puisqu'en réalité, ce projet, donc, il est porté par une autre compagnie que le collectif La Carte Blanche, qui s'appelle Le Cinquième Quart, et que j'ai créé et cofondé il y a 2 ans avec Charles-Henri Wolf et Charlie Breton, qui sont eux 2 élèves de la promotion 2016 de l'ENSAD.
Oui.
Et ce projet, finalement, il réunit majoritairement des Montpelliérains de plusieurs promotions, promotion 2012, 2014, 2016. Il y a aussi Frédéric Dufour, qui est d'une promotion précédente. Oui. Dag Jeanneret et Evelyne Didi qui...
Encore en plus, ça remonte encore plus loin.
Oui, qui ont en tout cas une histoire aussi avec l'école, puis ils ont été tous les deux nos intervenants quand on y était élèves.
Oui. C'est bien, c'est marrant, non ?
Oui, ouais, c'est familial, c'est bien. Et puis l'équipe s'est étoffée de 2 comédiennes qui ne sont pas montpelliéraines, elles, donc Laureline Lebriceff qui vient de l'Irak, et Margot Madec, qui vient de l'école de Lille. Donc, on est quand même majoritairement montpelliérains.
Oui. Alors, Fast Trip est la traduction scénique du premier roman de Geoffrey Eugénides, c'est ça ?
Oui.
Qu'il a écrit en 1993.
Tout à fait.
Virgin Suicide. Et adapté au cinéma par Coppola en 1999.
Tout à fait.
Alors, comment est né ce désir de mettre en scène cette histoire ?
En fait, moi, j'ai découvert le film de Coppola au moment de sa sortie en 99, alors que j'étais moi-même adolescente. Le film m'a beaucoup touchée, il m'a marquée. Et quelques années plus tard, j'ai lu le roman. J'ai découvert que donc c'était une adaptation d'un roman. J'ai lu le roman alors que j'étais élève à l'ENSAD. Et voilà, le roman m'a encore plus davantage, je crois, et je me posais précisément à ce moment-là la question de l'adaptation d'un roman au théâtre. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à faire d'abord des laboratoires sur cette œuvre, et puis petit à petit est née l'envie d'en créer une adaptation théâtrale.
D'accord, alors quelques années pour faire mûrir
exactement.
Le tout. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce texte ? Quelles sont les thématiques que vous avez souhaité mettre en avant ?
Ce qui m'a intéressée, je crois, et donc ça s'inscrivait en dialogue avec le film de Coppola. Dans le film de Coppola, on est plongé dans la maison Lisbonne, on suit l'histoire de ces filles de l'intérieur. Et j'ai aimé que Geoffrey Eugénides écrive cette histoire du point de vue d'un groupe de garçons qui regardaient ces filles. Je trouvais qu'il y avait un traitement très intéressant de la mémoire, de la remémoration, à travers le cadre d'une enquête, en fait, puisqu'en réalité, ce sont donc un groupe de garçons qui étaient les voisins, les camarades de classe de ces jeunes filles au moment du drame, qui, 25 ans après, cherchent toujours à comprendre pourquoi elles se sont suicidées. Il me semble qu'il y a des thématiques qui sont encore très actuelles et qui ne concernent pas juste la jeunesse des années 70 et pas juste la jeunesse de cette Amérique-là, de cette Amérique puritaine de cette époque-là. Évidemment, l'adolescence, le malaise adolescent, la difficulté à dialoguer avec des adultes, avec les générations précédentes. Je trouvais aussi qu'il y avait un très beau traitement des premières fois, des premiers émois adolescents. Et beaucoup d'humour. Voilà.
D'accord. Alors là aussi, voilà, on est dans l'actualité. Enfin, je veux dire, on retrouve en fait ces problématiques-là de l'adolescence. Hein.
Absolument, ouais, oui. Ouais.
Et alors, vous avez désiré élargir le champ du drame intime au drame social, c'est bien ça ?
Oui, en réalité, c'est un peu ce que fait déjà Geoffrey Eugénides dans son roman. C'est-à-dire que... au fur et à mesure de l'enquête, on se rend compte que ces filles ne sont pas simplement les boucs émissaires d'une époque, mais que finalement elles sont comme des prophètes et qu'elles annoncent le déclin de toute une société et que finalement ces adolescentes sont comme le symbole de l'adolescence de ce jeune pays qui est les États-Unis et qui est en pleine mutation à ce moment-là.
Oui. De ce récit, à la fois dérisoire et mythique, découle un ensemble de variations tour à tour oniriques, romantiques, terrifiantes, justement pour décrire cette jeunesse américaine en quête de sens.
Oui.
Absolument. Alors, comment mettre en scène tout ça?
Eh bien, la grande difficulté, la première difficulté, c'était effectivement d'adapter une langue romanesque au théâtre, de voir comment on pouvait trouver une langue proprement théâtrale qui ne trahirait pas celle du roman. Nous, dans le traitement, ce qui nous a le plus intéressé, je crois que c'est donc la dimension d'investigation, d'enquête et de remémoration. Et donc, il y a de la vidéo, de l'écriture vidéo qui nous permet de traiter ces deux dimensions-là de l'œuvre de Genids. On a des vidéos préenregistrées qui nous permettent de traiter tous les témoignages en fait, qui composent le roman. Le roman est construit comme un puzzle de témoignages. Et donc, grâce à ces vidéos préenregistrées qui sont diffusées pendant la représentation, on peut convoquer cette galerie de personnages qui composent le roman.
Les souvenirs.
C'est surtout les témoignages, en fait. D'accord. Les vidéos préenregistrées. Et puis, il y a la vidéo en live qui nous permet de traiter le souvenir. C'est-à-dire que ces garçons ont vécu tout de même réellement des scènes avec les filles Lisbonne. Et donc, la somme de leurs souvenirs, l'addition de leurs souvenirs, nous permet de reconstituer ces scènes comme des plans-séquences qui sont filmés du point de vue de ces garçons en caméra subjective. Et donc, les comédiens se filment eux-mêmes et se font un relais de caméra.
D'accord. Voilà. Alors moi, ça me fait penser un peu à Cyril Tess. Vous avez quelque part un petit peu son influence.
Oui, absolument, oui. On a beaucoup appris en travaillant avec lui.
Alors vous faites appel aussi à la participation de lycéens.
Oui, il y a tous les soirs 20 figurants, 20 lycéens qui sont avec nous sur le plateau, 10 filles, 10 garçons dans chaque ville. Et qui participent principalement à la troisième partie du spectacle qui se passe dans une high school, donc dans un lycée américain.
D'accord. Mmh. Alors bon, j'ai rencontré depuis le début du printemps là, plusieurs fois Charlie Breton, et j'ai entendu aussi les élèves, les lycéens un peu répéter. c'est un travail des répétitions qui se font là quelques jours en amont des représentations. Mais je sais qu'à Grenoble, vous avez travaillé, vous avez présenté cette création. Là, vous avez fait un gros travail à l'année, il me semble, avec ces élèves.
Ah oui, le groupe de Grenoble a été une sorte de groupe test, mais aussi un groupe qui a vraiment participé à la création. On a eu plus de temps, donc on a pu vraiment les rencontrer en amont, discuter avec eux de l'œuvre, regarder des films ensemble. Et puis après, c'est eux qui ont créé finalement toutes les partitions qu'on transmet maintenant à tous les adolescents qu'on rencontre dans chaque ville. C'est eux qui les ont créées. Ils ont répété avec nous, je crois, deux fois par semaine. Et voilà, c'est vrai qu'ils ont vraiment participé à la création du spectacle.
C'est une belle expérience.
Ouais, je crois.
Alors voilà, j'ai cité Charlie Breton. Il vous a aussi épaulé pour l'adaptation et la dramaturgie.
Absolument. C'est bien ça. Oui.
Quelques mots sur la scénographie.
Alors, il y a 2 ans, on avait présenté une première étape de travail de ce spectacle dans le gymnase du lycée Jean Monnet. À l'invitation de Jean Varela, on avait pu présenter une petite heure qui était comme une sorte de variation du spectacle. Et donc, à ce moment-là, on avait choisi de ne traiter que justement l'épisode du lycée et de faire le bal de promotion. Et donc de le faire dans le gymnase du lycée Jean Monnet. C'est en fait cette expérience de théâtre in situ qui a inspiré la scénographie maintenant, puisqu'elle représente une moitié de gymnase, la moitié d'un terrain de basket, donc un gymnase, fusionné avec une façade de maison de petite banlieue américaine. Donc il y a un garage au milieu de ce terrain de basket, et ce garage est le QG de l'enquête menée par les garçons. Voilà.
D'accord. Alors, ce spectacle tourne depuis le début de l'année. Hein. Comme je le disais, il a été créé à Grenoble. Il se jouera en juillet au Festival Paris l'été. C'est pas rien, ça, ma chère.
Eh ben non, finalement, on jouera pas.
Oh, et alors, comment se fait-ce?
Non, parce qu'on jouera au Montfort, par contre, à Paris, l'année prochaine, en mars 2020.
D'accord. Mmh. Oui, puis j'ai vu que vous aviez quand même pas mal de dates à venir. C'est bravo, c'est important,
un spectacle
ça qui tourne. Alors, à préciser qu'il y a une rencontre de prévue ce samedi à 12h. Ici, au domaine. Est-ce que c'est ici à l'espace presse?
Oui, ou il me semble bien, avec Gérard Liebert.
Voilà, je pense que ce sera ici ou là, au petit chapiteau. En tout cas, c'est au fond de la Pinède. Et du coup, il y aura aussi Fred Bory et Ludivine pour Crime et Châtiment.
Hein. Tout à fait.
Il y aura d'autres comédiens ou metteurs en scène de spectacles prévus pour ce samedi là à 12h.
Pas que je sache.
Non. Il me semble que j'ai vu ces deux-là. Je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait. Vous pouvez nous le situer. Vous savez celui dont on parle?
Oui, ça se passe. Ça se situe dans la troisième partie du spectacle, donc juste avant l'entracte. Il s'agit du trajet en voiture en fait des filles et des garçons pour aller au bal de promotion.
D'accord. Justement. Alors par contre, du coup, on n'a pas présenté le premier extrait qu'on a entendu juste avant notre interview.
Le premier extrait, c'était le tout début du spectacle.
D'accord. Voilà. Ça tombait bien. Alors on écoute la suite.
Ah mais on va pas tous rentrer.
Bah pousse-toi. Attends, pardon.
Ouais, pardon.
Moi, je vais passer devant parce que j'y suis jamais.
Comment on fait?
Arrête!
Je peux m'asseoir sur tes genoux?
Ok.
Ça va?
Attention à ma robe. Je peux mettre la radio?
Ouais, vas-y.
Ça me rend dingue, elle passe sur une chaîne et tu sais jamais laquelle.
WKNR?
Au revoir, maman!
Au revoir, Mrs. Zizone!
Ça y est, super, super!
Par qui, mon vieux? Vas-y, démarre, n'hésite pas, démarre.
Mais ça va, je te fais pas trop mal?
Oh non, impec.
Hé, hey, regardez les bégonias. Mrs. Tubbs a encore frappé.
Ah ouais, elle conduit comme un manche, elle a encore tout écrasé.
Il y a 2 ans, on a vu Monsieur Tubbs qui avait donné un coup de poing à la vendeuse de hot dog qui avait suivi sa femme jusqu'à chez eux pour une histoire de pare-choc enfoncé.
Ah mais oui, je crois que c'était sa maîtresse, elle a voulu se venger.
Et le docteur Essen a dû lui refaire les 2 dents de devant.
Le docteur Essen, der Sonar, star der Sonne, sir.
Arrête, et on n'est même pas sûr que ce soit des nazis.
Ouais, non, t'as raison, il devait juste être sympathisant.
Chez lui, chacun de nous avait imaginé les filles Lisbonne dans un décor tiré du maigre stock de notre imaginaire, roulant dans la vague ou faisant mine de nous fuir sur la glace de la patinoire, balançant les pompons de leur bonnet de ski devant leur nez comme des fumures. Mais là, dans la voiture, à côté des vraies filles vivantes, on a réalisé combien ces images étaient mesquines. Les filles n'étaient ni choquées ni folles. La vieille dingue que vous rencontrez tous les jours dans l'ascenseur se montre quand enfin vous lui parlez est parfaitement lucide. C'était quelque chose comme une révélation. En fait, les filles Lisbonne n'étaient pas du tout différentes de nos sœurs.
Mister Belvedere a encore frappé.
Et ce truc en aluminium, c'est horrible.
Est-ce qu'il croit vraiment que c'est vendeur?
Ce barbecue-là, c'est de très mauvais goût.
Ça a coûté 50 000 dollars et ils s'en servent jamais.
Alors en fait, c'est pas un barbecue, c'est l'entrée d'un tunnel qui va jusqu'à la rivière pour que Samy le retienne.
Oui, le père Baldino, ouais.
Ouais, enfin son vieux, quoi, pour qu'il puisse rejoindre son hors-bord.
Oui, ça passe sous toutes les baraques du quartier.
Ah bon?
C'est dingue.
Tiens, passe par Jefferson Avenue, là.
Ok.
Mais attendez, ça va chez tout le monde?
Oui, tout le quartier.
Et vous y êtes déjà allé?
Non, mais c'est lui qui nous l'a dit.
First Trip, donc une mise en scène de Katia Ferreira de la compagnie Le Cinquième Quart, à voir ce vendredi à 20h et samedi à 18h au théâtre Jean-Claude Carrière.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Katia. À bientôt.
Au revoir.
Cinérama spécial Printemps des comédiens, et oui, c'est tous les jeudis de 18h à 19h sous la pinède du Domaine d'Eau. Venez nous voir. Diffusion le vendredi à 10h10, comme d'habitude, le samedi à 12h10, ainsi qu'à 18h10, et écoutable en podcast sur radiofmplus.org. Nous terminons cette émission avec Martine Leroy et Martin Gerbier du Centre des Arts du Cirque Balthazar. Et d'abord, on écoute.
Bienvenue sous le nouveau chapiteau du Centre des Arts du Cirque Balthazar. Aujourd'hui, c'est la première de Corps en Jeu. Vous avez donc l'honneur d'être les premiers spectateurs sous ce chapiteau. Nous prendrons vos coordonnées. Chaque année, vous devrez faire un don. Nous vous en remercions. Vous êtes venus voir donc des élèves de formation professionnelle. Cette année, il y a une petite particularité. C'est que nous avons fait une première partie par nos premières années et une deuxième partie par nos deuxièmes années. C'est très original. En tout cas, c'est une petite surprise. Parce qu'il y a parmi vous des gens qui reviennent chaque année, donc il faut vous surprendre chaque année. Voilà. Pour les nouveaux, ce sera une nouveauté. En attendant, je vous demande s'il vous plaît, évidemment, de ne pas utiliser les appareils photo avec flash. Sauf si vous voulez le faire maintenant.
Martine, Martin, heureuse de vous recevoir. Alors, avec Martin, directeur général, c'est notre rendez-vous annuel. Avec vous, Martine, à la direction artistique et la mise en piste, c'est plus difficile de vous avoir. Donc, merci d'être là.
Bonjour.
Bonjour. Alors, bon, Martin rigolait, évidemment, en entendant cet extrait. À chaque fois, c'est votre heure de gloire, Martin, de cette présentation.
Et oui, c'est ma minute de présentation. Non, j'en ai deux dans l'année, en fait. Hein. J'ai à Noël, pour le festival d'hiver, et puis au printemps des comédiens. Et c'est vrai que c'est une forme, en fait, c'est quelque chose qui est attendu d'une certaine manière aussi par les gens. C'est l'accueil, c'est les remercier, et puis c'est lancer le spectacle, et après, ben, finir le spectacle. Donc, c'est un petit temps. Ils me laissent un petit temps à moi, ils sont sympas, oui. Balthazar.
Martine, est-ce que Martin aurait pu être clown, il me semble, avoir quand même des disponibilités pour ce genre, non ?
Ben, il a été.
Il a été, il a c'est été, vrai
oui. Ah, oui, il y a beaucoup d'années, mais il l'a été.
Ah, ça ne m'étonne pas. Alors bon, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore votre centre des arts du cirque, Balthazar, une petite présentation s'impose. Martin, Martine, elle est où ?
Bah déjà, je peux dire que c'est Martine qui a fondé Balthazar, parce qu'à l'époque, déjà, c'est Martine qui est une femme pionnière du nouveau cirque, en créant la compagnie Arcaos avec Pierrot Bidon, et puis elle a créé la compagnie Balthazar. Et après, Balthazar est devenu en fait un centre des arts du cirque, avec à la fois une formation professionnelle, mais aussi une pratique amateur et un nombre de projets auprès des écoles, des publics spécialisés. Donc on s'est vraiment diversifié dans nos rapports au public, avec objectif évidemment principal, c'est sensibiliser aux arts du cirque, ce qu'est le cirque aujourd'hui, et par son approche aussi, nous permettre d'accéder à un plus grand public et que le public ait accès à la culture et à l'art à travers le cirque.
Oui. Alors, combien d'intervenants et pour quelle discipline ?
Oh, il y a beaucoup de disciplines, ça dépend des années. On a une dizaine d'intervenants réguliers et il y a des intervenants ponctuels aussi dans les spécialités variées, le trapèze, la jonglerie, l'acrobatie, les équilibres, les aériens divers et variés. Voilà.
Oui. Depuis combien d'années êtes-vous programmé au Printemps des comédiens ? Le printemps a 33 ans.
Je crois que ça fait 21 ans que nous sommes programmés au Printemps des comédiens.
Oui, plus de 20 ans, je ne me souviens plus trop.
Donc là, il y a une histoire de fidélité, on peut dire.
Hein. Bah oui. Oui, tout à fait. Ouais.
Alors, voilà. Mais la grande nouvelle, il faut le dire, c'est votre nouveau chapiteau quand même.
Alors, c'est vrai que dans l'extrait que vous avez passé, c'est vrai que nous accueillons le public pour la première fois à la première dans ce nouveau chapiteau qui a remplacé l'autre, évidemment, qui avait été détérioré par la neige. Donc nous sommes très contents de ce nouvel outil qu'on a adapté maintenant aux besoins d'aujourd'hui. Il est plus haut, il est plus large, parce qu'il a ce qu'on appelle des absides, c'est la toile part un peu s'aligner un petit peu sur, comme on voit, à 45 degrés, ce qui nous donne beaucoup plus d'espace. Nous avons des portes normales, un beau plancher, et tout ça c'est aussi grâce au soutien de la région Occitanie, le département et la métropole de Montpellier.
Il fait bien son boulot, à chaque fois il les cite.
Ah ben, ils ont participé, s'ils n'avaient pas participé, je ne les aurais pas cités.
Et le crowdfunding.
Et on a fait aussi
un
beau crowdfunding avec le soutien de nos adhérents, et ça avait vraiment ça nous a permis de finaliser l'achat. Et ça, c'était fort parce que c'était en plein mois de juillet. Et on a reçu un soutien super.
Oui. Et donc la capacité d'accueil du public est plus importante ?
Non, on a conservé la même capacité. On a le diamètre du chapiteau, c'est toujours 22 ronds. Mais avec les absides, ça fait évidemment plus étendu avec la hauteur. Disons que l'espace, quand même, sur l'espace chapiteau, on ne peut pas non plus mettre un trop gros chapiteau parce qu'il y a quand même déjà deux chapiteaux présents. Et puis, il faut respecter un certain nombre de normes de sécurité. Donc, on a gardé à peu près la même dimension. D'accord. Donc, la même jauge.
D'accord. Alors, pour cette création, nous allons donc découvrir les stagiaires première et seconde année. Cette expérience de création, elle s'inscrit au cœur des projets pédagogiques du centre, Martine ?
Oui, ça a toujours été une volonté de faire connaître le public pendant la formation, le plus souvent possible, et des publics différents d'ailleurs. Ici, au Printemps des comédiens, c'est un spectacle qui compte pour les premières années parce qu'ils sont impressionnés par le festival, ce qui est normal. Et puis, c'est quelquefois la première fois qu'ils jouent vraiment en tant que professionnels.
Alors, voilà. On va écouter un petit extrait que va nous introduire de suite notre technicien Stéphane.
C'est quoi un vrai artiste en fait? C'est quelqu'un qui a souffert, qui a vécu des choses tristes, des expériences douloureuses, des moments traumatisants. C'est tout ça en fait qui va le rendre touchant et émouvant. Drop that, drop that, drop that.
La thématique de cette création est sur le corps, c'est leur choix, c'est le choix des stagiaires.
Oui, c'est le choix des stagiaires.
Comment se font justement ces choix?
Eh bien, on fait des groupes de parole où ils essayent de trouver une thématique commune à leurs différents travaux déjà entamés. Et les premières années, on choisit corps en jeu pour pouvoir se questionner sur le corps au niveau de ce qu'il véhicule comme sensation, comme émotion. Pour soi-même et puis pour l'autre et les autres. Et la deuxième année, on choisit la question du corps et du pouvoir dans la société normée. Que dit le corps? Que devient le corps? Comment on a un corps intime et un corps social, etc. Ils se posent des questions sur les corps dominants aussi et les corps dominés. Enfin voilà, toutes sortes de questions de leur époque.
Et oui,
notre
et oui.
Époque.
Et donc, j'ai lu qu'il s'était inspiré de corps mouvant de Paul
de Preciado.
J'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots. Ce philosophe espagnol qui n'est pas banal, on va dire.
Non, il n'est pas banal. Écoutez, ils ont beaucoup travaillé ces derniers temps sur l'identité, le genre, la transition, ils se sont posés beaucoup de questions. On a travaillé sur ce texte qui est quand même un des textes simples de Preciado, il faut le dire. Corps mouvant, ce sont des phrases qui sont en binôme, où il offre tout un éventail de propositions de ce qu'est le corps dans notre société, un corps politique, comme il dit, lui, il le défend. Et donc, c'était très intéressant de pouvoir creuser les questions des stagiaires à partir d'une inspiration qui était un texte important, que je trouve très important, en tout cas.
Ah oui. Alors, je vous ai volé un peu de texte, d'extrait hier pour la première. On va, si on a le temps, on va en écouter là de suite. Est-ce que ça fait partie de corps mouvant ou de l'auteur Preciado? Vas-y Stéphane, si tu peux lancer le texte, Martine ou Martin nous diront.
Crever puis ressusciter.
Non, ça c'est une bande son que la trapéziste a fait pour son numéro précisément.
D'accord. Oui. Alors on écoute quelques secondes parce que voilà, le temps passe vite.
Partir du bas vers le haut. Du haut vers le bas. mettre son corps.
D'ailleurs, très belle cette trapéziste et assez originale avec son ballon de baudruche dans la bouche,
oui, oui.
Qui correspond bien à son texte, à la respiration.
À la respiration, oui, elle a travaillé sur la respiration. Mais le texte de Preciado était de nature inspirante. On n'a pas du tout travaillé sur le texte au pied de la lettre. On a travaillé comme source d'inspiration.
Oui. Alors donc, deux parties avec chacune une bonne douzaine de jeunes qui rassemblent leurs recherches hein, sous forme de numéros en solo, en duo,
oui, c'est ça.
Ou en collectif. Alors cette fois-ci, pour la mise en piste, vous êtes entouré de trois anciens élèves qui sont donc à présent professionnels.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire cette année, j'ai aimé... trouver des assistants qui connaissaient déjà la formation, qui connaissaient aussi mon travail et puis qui étaient qui commençaient à avoir envie aussi de faire de la mise en scène. Et donc, comme il y avait deux groupes, il y en a un qui a travaillé sur chaque groupe et il y en a une troisième qui était plutôt compagnante des aériens. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec ces jeunes en équipe. C'était vraiment très agréable.
On peut les citer peut-être d'ailleurs.
Oui, il y a Sébastien Martin qui a travaillé avec les premières années. Il y a Théo Géraud qui a travaillé avec les deuxièmes années. Et il y a Lucie Le Poivre qui a travaillé avec les aériens.
D'accord. Et alors j'imagine aussi que pour eux, c'est important d'apprendre aussi ce côté pédagogique quelque part.
Oui, c'est ça qui est assez difficile. C'est de mener les objectifs d'une mise en scène où... il est évident qu'on va rencontrer le public et qu'il faut que le travail soit là. Et en même temps, on apprend à être mis en scène. On apprend encore quelquefois même à travailler techniquement son numéro. Et donc, c'est assez intense pour les élèves. C'est un stage, en fait, intensif.
Oui, voilà. Oui. Alors, c'est toujours un émerveillement de découvrir leur travail. Je dis chaque année, mais ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont pleins d'énergie, ils sont talentueux. Enfin, c'est vraiment... Ils respirent le bonheur, l'enthousiasme.
Oui, oui, ils sont contents d'être sur scène. Et puis, cette année, je trouve qu'ils ont pris des risques parce qu'avec la thématique qui était proposée, pour des premières années, c'était quand même, ça peut être encore très fragile au niveau des propositions artistiques parce que voilà, ils ont décidé d'aller loin et moi je les ai accompagnés.
Très bien, bah, écoutez, un grand grand merci. On se retrouve l'année prochaine. Alors, et pour nous, chers auditeurs, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission spéciale Printemps des comédiens. Un grand merci à Stéphane qui assure la technique, à toute l'équipe du Printemps qui nous accueille et à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite de très très bons spectacles. Et on termine avec le final de Corps en jeu par les stagiaires de la compagnie Balthazar.
Élèves de formation professionnelle.